franceinter.fr. La science de l'environnement. En partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et le taux de CO2 dans l'atmosphère qui franchit un record des plus symboliques vu depuis l'un des endroits les plus isolés du globe, la station de mesure de l'île d'Amsterdam dans l'océan Indien.
Cette station est devenue la référence au niveau mondial. L'étalon qui permet de mesurer les rejets en carbone de l'humanité.
Ici, on a un très gros pic et ça, ça correspond au barbecue qui a été organisé pour le départ des personnes de la 59e qui vont rentrer avec vous sur le ballon du Fresne.
Voilà, et cette station de recherche est l'une des deux seules stations au monde qui sert de référence pour les mesures de pollution de fond de l'atmosphère, et la concentration en CO2 atmosphérique vient donc d'y dépasser les 400 ppm. Michel Ramonet, vous êtes chercheur au CNRS et coordinateur du réseau national d'observation ICOS, et puis dans ce studio avec nous comme tous les lundis, Hervé Kempf pour notre partenariat avec le site reporter. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors 400 ppm, Hervé, c'est un chiffre, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre exactement ?
Eh bien, le bouleversement de l'humanité, voilà, tout simplement. Mais revenons à la base, ppm, ça veut dire quoi ? Ça veut dire partie par million. C'est une façon de mesurer les gaz dans l'atmosphère, en l'occurrence le CO2, le gaz carbonique, qui est un gaz très important à effet de serre. Et donc, on mesure 400 ppm de CO2 dans l'hémisphère sud, ça signifie 400 ppm par million. C'est l'équivalent d'un centimètre cube de CO2, si vous voulez, dans un mètre cube d'air. Mmh. Alors, cette mesure est très importante. Les mesures en ont commencé à un autre endroit que celui dont on va parler, à Mauna Loa, à Hawaï, en 1957, par Charles Keeling, et donc qui a établi cette courbe qui a toujours été en progression de ppm, de concentration de gaz carbonique dans l'hémisphère nord, qui a atteint 400 ppm à Mauna Loa, à Hawaï, mais l'hémisphère sud est plus loin des sources de pollution, donc à des niveaux inférieurs. Et là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à l'île d'Amsterdam, dans le sud de l'océan Indien, avec la station de mesure dirigée par des scientifiques français, mais aussi dans une autre station anglo-américaine, la Halley Research Station dans l'Antarctique, on a mesuré un dépassement de 400 ppm dans l'hémisphère sud, donc sans doute dans l'ensemble de la planète. Juste pour finir, pour bien comprendre l'importance de ces 400 ppm, d'une part, c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint depuis plus de 800 000 ans, et ça, on le sait parce qu'on fait des carottages dans les glaces de l'Antarctique. Et par ailleurs, la référence que l'on a, c'était 280 ppm, c'était à l'époque pré-industrielle, aux alentours de 1800. Donc on est maintenant à des niveaux historiquement extrêmement élevés.
Et seuil symbolique qui vient d'être franchi, Axel. Hein.
Alors oui, Michel Ramonet, concernant le réchauffement climatique global, qu'est-ce que nous dit ce chiffre précisément ?
Bonjour encore. Donc les 400 ppm à l'île Amsterdam, comme c'était dit avant, ça montre que cette valeur effectivement a été maintenant atteinte en moyenne annuelle, en tout cas sur toute la planète. Logiquement, on devrait s'attendre à ce que ce soit une valeur encore plus forte, puisqu'en tenant compte des émissions de CO2 dans l'atmosphère liées aux activités humaines, on devrait avoir des taux encore plus importants. Il faut savoir qu'on émet 36 milliards de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère, mais l'augmentation que l'on observe très précisément dans l'atmosphère correspond à un peu moins de la moitié de cette émission de CO2 par les activités humaines. On a donc cette chance, malgré tout, que cette augmentation est moins rapide que ce qu'elle pourrait être grâce à l'absorption de carbone par des puits naturels qui sont dans les réservoirs océaniques et dans la biomasse continentale.
Ça veut dire que vous vous attendiez à franchir ce cap plus tôt ?
Disons qu'on connaît les puits de carbone continental, on connaît à l'échelle globale, on les connaît plutôt bien grâce à des mesures à long terme dans l'atmosphère, dans les océans, dans les surfaces continentales, dans les forêts, les cultures. Donc on savait qu'on allait le passer le 400 ppm. Je m'attendais plutôt en fait à ce qu'il soit passé dans quelques mois, un peu plus tard. Et on le passe un peu plus tôt que prévu, je dirais, parce que cette année, on a un taux de croissance qui sera sans doute le taux de croissance le plus fort qu'on ait jamais observé à l'île Amsterdam en 35 ans de mesure, du fait d'un épisode El Niño qui a tendance à faire en sorte que les puits de carbone dans les surfaces continentales fonctionnent moins bien du fait de sécheresses dans de grandes zones continentales tropicales, Australie, Indonésie, qui font que les écosystèmes terrestres sont moins à même d'absorber un excédent de carbone ou du fait d'incendies, par exemple en Indonésie, vont en émettre davantage dans l'atmosphère et s'ajouter ainsi aux quantités de CO2 d'origine humaine.
Michel Ramonet, ça veut dire que 400 ppm maintenant, ça devient la norme pour l'ensemble de la planète ?
Tout à fait, en moyenne annuelle, ça devient la norme, mais ça ne va pas rester dans longtemps la norme, puisque de toute façon, ça augmente de 2 à 3 ppm par an, donc la norme, elle est déjà quasiment derrière nous. On a encore quelques mois en dessous de 400 ppm au haut de l'altitude de l'hémisphère nord, puisqu'en été, la végétation absorbe du carbone, donc on a encore des valeurs légèrement plus basses pour quelques années encore, mais effectivement, le seuil de 400 ppm est passé et franchi maintenant, et on n'est pas près de le franchir dans l'autre sens.
Vous parliez des puits de carbone océanique et atmosphérique. Comment fait-on pour mesurer leur efficacité ?
C'est un ensemble de mesures. Donc on a les mesures atmosphériques qui jouent un rôle, on a aussi des mesures océaniques. Donc on regarde les tendances. Encore une fois, ces programmes scientifiques sont basés vraiment sur des observations à long terme, des mesures précises et à très long terme, ce qui est un véritable défi. Parce que mesurer par exemple pendant 35 ans à haute précision, en continu, minute après minute, les concentrations de CO2 dans un endroit isolé comme Amsterdam, c'est un véritable défi. Mais donc on a aussi des mesures à la surface de l'océan, qui regarde la quantité de CO2 qui est absorbée par les océans ou dans les forêts, etc. Par des collègues, c'est des programmes où la France est très active. Et donc on fait le bilan comme ça à l'échelle globale avec une station. Par contre, l'objectif maintenant, pour aller au-delà de ce bilan global de carbone, c'est d'aller vers des bilans plus régionaux, essayer de comprendre quelles sont les zones responsables des qui jouent un rôle dans l'absorption de carbone pour absorber un peu plus de la moitié de nos émissions humaines, encore une fois. Et pour cela, on développe un véritable réseau de mesures avec pas mal de stations, en particulier en Europe, pour notre projet qui s'appelle ICOS. Donc.
Quel est le lien, Michel Ramonet, entre ce seuil de 400 ppm et le réchauffement de la planète ? Ou pour le dire autrement, est-ce qu'on va pouvoir éviter un réchauffement de 2 degrés Celsius avec de tels taux de concentration de CO2 dans l'atmosphère ?
Les prédictions, en fait, en utilisant un certain nombre de modèles pour le prochain siècle, au rythme actuel des émissions anthropiques, on considère qu'on a 25 ans d'émissions, que dans 25 ans, disons, au rythme actuel des émissions anthropiques, donc on devrait atteindre le réchauffement de plus de 2 degrés. Donc il est vraiment devant nous. Cela étant, on peut avoir des mauvaises surprises si le puits de carbone se mettait à fonctionner de façon moins efficace. C'est-à-dire si, face au réchauffement climatique, certaines zones de l'océan ou certaines forêts, en Amazonie ou autre, se mettaient soit à moins absorber, soit à émettre davantage de carbone.
Ouais. Vous parliez tout à l'heure d'installer plus de stations de mesure. Est-ce que c'est aussi pour vérifier que les pays tiennent leurs promesses en termes de réduction des émissions de CO2 ?
Effectivement, le développement de notre réseau relativement dense en Europe a deux objectifs. L'un, surveiller l'évolution à long terme des puits de carbone naturels. Et deux, aller vers un système de vérification. Il faut bien savoir qu'actuellement, les émissions anthropiques sont sur la déclaration des pays. Il n'y a pas de vérification indépendante. Donc on vise effectivement à mettre en place un réseau qui permettra d'apporter des éléments de vérification des déclarations de chaque pays.
Allez, avec M, pour terminer très vite.
Les émissions de CO2 humaines sont de 36 milliards de tonnes chaque année, et pourtant elles stagnent, elles se stabilisent comme en 2015. Est-ce que cette stabilisation va permettre de faire diminuer le seuil de 400 ppm ?
Diminuer en dessous les 400 ppm, non, on continuera. Le système a une grande inertie, vu que la durée de vie du CO2 est de plusieurs décennies, centaines d'années. Donc, même en stabilisant au taux d'émission actuel, qui est très fort, on continue à augmenter à un rythme élevé.
Merci beaucoup Michel Ramonet pour ces précisions. Merci Hervé Kempf. On retrouve ces informations sur le site de reporter.net. Et puis à demain, Axel Villard.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le lien supposé entre autisme et microbiote intestinal fait un pas supplémentaire. Une étude parue cette semaine dans la revue Cell montre qu'en l'absence de certaines bactéries dans leurs intestins, des souris semblent souffrir de symptômes similaires à l'autisme. Cette carence a été démontrée par des chercheurs de Houston aux États-Unis qui ont soumis 60 souris femelles enceintes à une alimentation très riche en graisses saturées. Un mois après leur naissance, les souriceaux ont montré des déficits de comportements sociaux, des symptômes qui ont progressivement disparu après une transplantation des fameuses bactéries manquantes. En est-il de même chez l'humain ? Rien ne le prouve, mais cette découverte laisse présager en tout cas de nouveaux champs de recherche. Plus de 90% des espèces de mammifères auraient disparu à cause du même astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années. C'est bien plus qu'on ne le pensait. La grande diversité des mammifères après l'extinction laissait croire qu'ils avaient été épargnés dernier, mais des chercheurs de l'université de Bath en Angleterre constatent que les mammifères ont été bien plus touchés que la plupart des autres groupes d'animaux, mais ils ont récupéré rapidement après la crise et se sont mieux adaptés, ce qui les a conduits à s'imposer dans le règne animal. Et puis on salue HO3, ce petit corps céleste épais de quelques dizaines de mètres seulement et qui se trouve en orbite autour de notre planète. La NASA a détecté ce gros caillou grâce au télescope de l'université d'Hawaï, chargé de repérer des objets géocroiseurs qui menacent de rentrer en collision avec la Terre. Pas de panique cependant, les calculs montrent que HO3 est l'un des quasi-satellites les plus stables qu'a connu la planète. Le corps céleste tiendra donc compagnie à notre Lune pendant plusieurs siècles avant de repartir pour de nouvelles aventures dans le lointain cosmos.